Bonjour à tous. Alors n'hésitez pas, vous pouvez vous asseoir. Pour l'instant, vous pouvez vous asseoir 3 secondes. Le temps que Saint Honoré d'Eylau, qui nous rejoint, une paroisse chère à mon cœur. Voilà, très bien, vous êtes merveilleux. Voilà, nous allons confier le Père du Loisir à la Sainte Vierge, ainsi que chacun de nos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Merci mon Père. Nous allons donc poursuivre, si vous le voulez bien, nos propos sur les mouvements intérieurs de l'âme. C'est très important d'avoir une écoute par rapport à sa vie intérieure, pas en fermant les yeux, mais avec l'expérience de qui nous sommes et de ce que nous sommes capables de produire. Les mouvements intérieurs de l'âme, je vais poursuivre, mais je vais peut-être, pour ceux qui viennent pour la première fois, évoquer ce que nous avions dit précédemment. J'avais insisté sur le fait que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je vous l'ai déjà dit, puisque Dieu nous demande de respirer, il nous offre donc l'oxygène et les poumons qui vont avec. Il nous donne de l'écouter, il nous offre les oreilles, il nous donne de mettre sa main dans son côté, il nous offre le toucher. Donc, nous avons été créés pour entrer en dialogue avec Dieu, avec les 3 facultés qui sont les nôtres, la puissance désirante, la puissance irascible et la puissance raisonnable. Un cheval ne peut pas utiliser la puissance raisonnable. Une pierre, l'intelligence irascible. Et pour ce faire donc, Dieu a déposé en l'homme, dès sa création, des facultés spirituelles que vous avez et que nous avons, de véritables puissances de l'âme. Et quand vous les connaissez, vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle la vie spirituelle et le combat spirituel pour les conserver en état de marche, car elles sont souvent détournées. Et s'ils sont en état de marche, elles vous conduiront à la paix, au bonheur, à l'épanouissement, à l'accomplissement, à l'élévation. Vous aurez donc une vie spirituelle dans l'Esprit Saint. Si vous venez à négliger ces facultés de votre âme, si elles sont inhibées, ou si elles sont mortifiées par une pratique spirituelle brutale, torturante, janséniste, vous allez priver vos facultés de leur énergie divine et vous allez devenir ce qu'on appelle, comme les sardines, vous allez prendre la forme de la boîte des poissons sans tête. Ah, vous serez pieux, mais pas très productif spirituellement. Donc, elles vous permettent de vous détourner du mal parce que c'est le démon qui se sert de ses facultés pour les orienter vers des appétits mondains, vaniteux, charnels, etc., les fameuses passions désordonnées. Ceux qui ont su orienter ou discipliner les puissances de leur âme et à les cultiver ces puissances ou les réorienter, c'est la même chose, elles les ont mis au service du dessein du Créateur à la suite du Christ. Et ainsi, Le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, vous le vivez parfaitement. Le Notre Père vécu, c'est la transfiguration de l'homme dans ses passions, dans ses puissances. Donc ces puissances de l'âme sont de véritables moteurs et ce sont des dons inestimables. Vous allez approcher donc Dieu avec plus de justesse, vous mettrez de l'ordre dans votre vie et votre vie sera dans le sens de l'histoire. Donc ces trois puissances, je vous les récapitule, désirantes, irascibles et raisonnables. S'il est certain que le désir, l'ardeur et la raison, quand ces puissances sont esclaves des passions charnelles, égoïstes, je vous le dis, vous bâtissez la maison sur le sable et elle s'écroulera. Mais quand ces puissances sont libérées de toute influence, de suggestions désordonnées, elles mènent à Dieu lui-même. Elles nous mettent dans une mentalité, une attitude, une échelle de valeur qui n'aura donc rien de mondain. Loin de tout parasitage, ces puissances de l'âme vous mettront en marche et on vous appellera des enfants de lumière. Venez à moi, les bénis de mon Père. La puissance désirante, nous l'avons évoquée largement la dernière fois. Je voudrais parler avec vous de la puissance irascible et surtout des vertus de cette puissance et des désordres de la puissance irascible. La puissance irascible, il faut faire attention qu'elle ne dévie pas. C'est peut-être votre tempérament. Attention, il y a des tempéraments, je vous en avais déjà parlé, et des personnes, elles disent tout ce qu'elles pensent. Elles feraient mieux de penser ce qu'elles disent. D'autres, elles réfléchissent à tout ce qu'elles disent, mais on ne sait jamais ce qu'elles pensent. Vous voyez bien, ça ce n'est pas très juste. Donc la puissance irascible est une puissance qui est utilisée par les hommes en tant qu'être spirituel pour écarter tous les obstacles sans dévier sur la voie de l'union à Dieu. Mais cette puissance, détournée de son objectif, se caractérise par quoi ? L'amour de soi, la tentation de la possession. Et l'amour de soi peut être souvent compris comme un amour pour notre corps. Et même, il y a une ardeur, il y a une situation encore plus profonde qui vient de l'âme, c'est l'attachement à nos propres désirs. Personnellement, j'en ai un, que je peux vous dire parce qu'il n'est pas dramatique. J'adore manger sur une table avec une nappe blanche. Et quand il y a des restaurants sans nappe blanche, je n'y vais pas. Et parfois, ça me conduit à dire du mal sur des restaurants qui n'en ont pas, vous voyez ? Donc, le désir de volonté propre, et tout cela, ce désir de volonté propre, cet amour de soi au point d'avoir une attitude raide, exigeante, tranchante, un amour de soi dans son confort et ses plaisirs, ça finit par créer un voile dans notre cœur. Et on dit que la puissance irascible devient alors la mère de l'impatience, de l'agressivité et de la violence. D'ailleurs, certains, ils tapent du pied. Pas question. Donc, les trois grandes passions qui vont surgir, les trois grandes les trois grands drames de cette puissance irascible qui n'est pas bien orientée, ça va être, vous savez quoi? La tristesse, il n'y a pas de nappe blanche. La déception du moi, mais aussi un aveuglement et une obscurité qui arrivent dans l'âme, parce qu'elle se perd dans le détail, elle n'est plus orientée vers Dieu. Il y aura aussi l'acédie, qui est une négligence de l'âme, et il y aura la colère. Et si on évite tristesse, acédie, colère, eh bien on connaît l'Esprit de Jésus. Sinon, on dit que la chair s'exalte et s'exalte. La puissance irascible, bien orientée, elle ne s'approprie rien du tout. Mal orientée, mal utilisée, eh bien, elle ne va pas aller à la rencontre des autres. Ça, c'est un des grosses conséquences de ce comportement. Il n'y a pas d'authentique humilité. D'ailleurs, les restaurants qui n'ont pas de nappe blanche, mépris. Il n'y a pas. Tandis que quand il y a cette attitude qui n'est pas dans ce que j'appellerais une orientation désordonnée, on ne s'approprie pas les choses, il y a ce que j'appellerais une certaine paix, une certaine souplesse, une certaine accommodation. Détournement de la faculté de la puissance irascible, donc au service des désirs sensibles qui animent l'homme, conservation des plaisirs et attachement exigeant, elle peut se transformer en agressivité. La puissance irascible, vous l'utiliserez pour fuir la douleur, éviter tout déplaisir, tout inconfort. Sinon, vous allez râler. Ainsi, on en arrive à un amour exigeant et égoïste que nous portons en nous-mêmes et nous retournons la puissance irascible contre nos semblables si nous voyons en eux et à cause d'eux des souffrances ou des obstacles qui contrarient la réalisation de nos désirs et qui nous empêche d'obtenir les plaisirs que nous visons. Il faut voir dans le métro, quand il y a une place de libre, comment les gens essayent d'atteindre leurs plaisirs et comment ils peuvent d'un seul coup devenir en colère. Mépris du prochain. Il me semble que la façon dont on se comporte dans une foule pour obtenir une place qui est limitée, on voit très très vite le réveil des puissances irascibles les plus enfouies qui soient. Nous conduisons alors de manière déraisonnable, insensée et folle. J'ai vu des personnes âgées, on dirait des bonnes mamies, mais il y avait une place à prendre, mais je ne vous dis pas. Elles n'avaient plus d'arthrose. Donc, la seule cause de notre perdition dans notre tempérament, c'est notre volonté propre. Or, il est dit, parce que Dieu ne peut pas se révéler à celui qui n'est pas prêt à accomplir sa volonté, donc il faut bien réorienter sa puissance irascible. Sinon, vous n'arriverez pas à désarmer le prince de ce monde qui va en profiter et vous allez devenir violent. Et il est toujours très important de ne jamais entrer en situation de violence. Il faut renoncer à la violence et ça, c'est le signe que votre puissance irascible est bien orientée. Que vous vous laissez façonner par la grâce, par la providence, le quotidien des événements. Alors pourquoi la puissance irascible vous est donnée ? C'est une force de détermination. C'est une force d'énergie que vous pouvez appliquer à un seul point. Il n'y a qu'un seul point. Le bon Dieu. Et ça, après toi, langue, ma chère, terre aride, altérée, sans eau, puissance désirante, que rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait ? Puissance irascible, une énergie. Que rendrai-je ? Pourquoi ? Parce que le bon Dieu est lui seul notre puissance, lui seul notre force, que lui seul est bon, que lui seul est le Très-Haut, lui seul le puissant, lui seul admirable, lui seul glorieux, lui seul saint, lui seul louable, lui seul béni dans les siècles des siècles. Amen. Ce qui caractérise la puissance irascible quand elle est empêtrée dans ses comportements à la recherche d'un plaisir et d'un bonheur à atteindre à tout prix, ça va être deux choses. L'indécision et l'indétermination qui vont donc vous rendre très vulnérable car vous ne posez pas d'acte. Vous n'agissez pas. Le choix n'est pas fait. Les pensées vont vous assaillir de toutes parts. La porte reste grande ouverte aux suggestions extérieures. Qu'est-ce que je fais ? Parce qu'en arrière-fond, il y a quelque chose qui vous retient. Ce n'est pas le bon Dieu qui est l'objectif, c'est quelques plaisirs enfouis. Par contre, si vous prenez une décision, elle va vous permettre de vous confronter au réel, elle va vous faire grandir, et c'est là que vous rencontrerez Dieu. Et la force irascible bien orientée va vous conduire à vous opposer à tout ce qui peut vous détourner du bien et de Dieu. Elle va donc être aussi un ancrage. Elle va maintenir votre esprit dans la fidélité. Et vous aurez la force de vous opposer aux désirs et aux pensées qui mettent en danger votre relation avec le bon Dieu. Ah non, pas ça. Bien, ça suffit. Quand vous avez dans la liste de vos péchés, un péché, vous dites enfin, celui-là, ça suffit, on est sauvé. Ne prenez pas de résolution, trouvez-le, ça suffit. Pas de complaisance, on tord le cou au canard. Et quand ce cri jaillit au fond de vous, ça s'appelle une sainte colère. Faire de la maison de mon père une maison de voleurs, ça suffit. Ça, c'est la bonne colère. Jamais contre des personnes, mais contre des actes. Et dans les psaumes, il y a un psaume qui dit ceci, « Mettez-vous en colère et ne péchez pas. » Donc, la puissance irascible vous permet de chasser de l'intérieur tous les marchands du temple qui sont en vous et qui mettent en danger votre relation avec le bon Dieu. Il y a dans la colère dont je vous parle une force utile, et s'il n'y avait pas cette colère, on peut dire que vous ne seriez pas habité par l'esprit de pureté. Oui, la pureté, elle est liée à cette aptitude à dire « ça suffit ». La finalité de la puissance irascible, c'est la paix. Dieu a déposé en l'homme la puissance irascible pour que nous trouvions la paix. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Et la paix que donne la puissance irascible, elle est liée à Jésus. Et la paix, elle vous conservera dans la joie, ça, c'est un des fruits admirables. La paix, elle va commencer dans les réalités terrestres, d'abord. Vous ne l'aurez qu'au ciel, mais elle doit se construire ici-bas. Et ça sera du travail. Et la paix correspond donc à une satisfaction qui vous sera donnée, un désir de Dieu. Quand vous le verrez face à face, vous serez dans la paix, vous aurez atteint votre objectif. Vous serez libéré de toute agitation. Vous verrez comme vous êtes aimé et vous pourrez aimer en retour. Il faut savoir que l'esprit de paix se communique et qu'il se cultive. Mais quand il n'est pas dans l'ordre de la sagesse de l'Évangile, il s'accompagnera de vanité et d'orgueil, cet esprit irascible. Et les démons vont s'en réjouir, et votre âme va dépérir. Il y a donc obligatoirement humilité et pénitence. Il n'y a pas de paix avec la vanité, il n'y a pas de paix avec l'orgueil. La réponse de l'homme pour accomplir sa puissance irascible, premier point important, le renoncement. Diminuez vos besoins, vous vous enrichirez. Nous devons renoncer à nos pulsions, à l'absolutisation des désirs. C'est ça, et hors de question que ça soit autrement. Pas bon ça, que d'énergie gaspillée. Ah non, chez moi on ne fait pas ça. Quelle belle statue. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Donc, quand le Seigneur Jésus dit à ses disciples, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes, il leur propose un projet de vie afin qu'ils s'accomplissent. Ils ne vont pas poser leurs conditions. Ils vont le suivre, ils vont accepter de ne plus être eux-mêmes. Ils étaient pécheurs, ils ne furent plus pécheurs. Mais pas au sens où ils l'entendaient. Ils vont se laisser guider. Donc il y a ce qu'on appelle un esprit de confiance en Dieu qui se laisse guider. De ne pas être un homme qui est fondé sur sa propre volonté, mais sur un renoncement à sa volonté propre. Je vous dirai tout simplement, en familiarité, je vous conseille un verre de soupline tous les matins au petit déjeuner. De la soupline, Saint Élastomère. C'est une façon de renoncer ou de voir les choses à partir d'un autre étiage, une autre perspective que celle qu'on a l'habitude d'avoir. On abandonne ses filets et on suit le Christ. Pour cela, il faut aussi être capable de reconnaître ses limites. Reconnaissez vos limites. Car l'amour de soi fait qu'on ne voit pas ses limites. Ayez aussi un peu de courage. Il faut du courage pour renoncer. Et bien souvent, on a des renoncements quand on doit quitter un endroit ou choisir un autre parcours. Ce courage est un processus nécessaire à une guérison de l'amour de soi qui utilise les forces irascibles pour toujours obtenir ce qu'il veut et qui ne change pas parce qu'il a peur de ne pas retrouver ce qu'il avait. Le courage c'est une capacité à devenir cet homme à la suite du Christ. Parce que vous n'allez pas quitter, comme le bébé, facilement une couche chaude pour une couche froide. Quand on change la couche des bébés et qu'il passe la couche chaude à la couche froide, il peut pleurer. Quand Moïse quitte l'Égypte pour partir en terre promise, il regrette presque l'esclavage à cause du menu qui leur était servi. Donc, ça ne se passe pas aussi facilement que cela. Alors, je vais maintenant aborder directement tristesse, assédie et colère. Ce sont donc les passions dramatiques de la puissance de l'âme. Et toutes ces trois puissances, tristesse, assédie, colère, dépendent de l'esprit de possession. Se convertir, parce que c'est de ça dont il est question, quand nous sommes dans la tristesse, la ténèbre nous envahit. Quand il faut abandonner un confort, une vie mondaine, quand il faut suivre la volonté de Dieu, la tristesse peut nous envahir. L'insécurité que l'on peut rencontrer, qu'on va éprouver, peut nous mettre triste. La persévérance qu'il faudra avoir peut être triste et affoler notre âme. Et puis la tristesse, le retour sur ses péchés, etc., etc., peut causer découragement qui va s'insinuer. On aura même peut-être la défaillance de la foi. On aura même peut-être une souffrance qui va s'accroître parce qu'on peut même penser qu'on n'aura pas la vie éternelle et le paradis. Ainsi, la tristesse va agir sur vous comme une emprise sur votre âme. Elle vous maintiendra dans un aveuglement pénible et douloureux. Elle va atteindre les couches profondes de votre être. Regardez ce qui est arrivé à Jésus au Golgotha, mais aussi surtout à Gethsémani. Il a été atteint, lui, d'une tristesse, sainte tristesse. Mais il a su la vaincre. La tristesse dont je vous parle, ce sont les événements extérieurs qui vont vous l'infliger. Surtout ne pas se couper du monde parce que ça va être douloureux à affronter. Il faut passer dans l'action. La tristesse don de Dieu comme vertu, celle qu'avait Jésus, va vous permettre plutôt de vous affliger de votre misère humaine, de souffrir d'être éloigné de Dieu, de vous conduire à l'état de pénitence et à la repentance. Ça, c'est bon. La tristesse issue du mauvais usage, au lieu de vous attrister de la perte des biens spirituels, vous conduit à pleurer la perte des biens sensibles. Ah, quand j'avais mes cheveux, ah, quand j'avais mes rotules, ah, quand j'étais jeune, ah. Nous pleurons la perte des biens sensibles, nous nous affligeons des désagréments subit, ah, Madame Hidalgo avec tous les parkings, c'est plus possible, les feux rouges. Vous voyez, toutes sortes de tristesses, mais il y en a qui peuvent être très très lourdes. Ce n'est pas l'adversité, l'opposition qui doit entraîner chez nous la tristesse. Mais c'est la tristesse liée à ce que Dieu ne soit pas aimé. Tristesse qu'on méconnaisse son nom, qu'il ne soit pas sanctifié, que l'homme se dévoie et oublie les promesses de la vie éternelle. Sinon, l'homme perverti dans cette tristesse va multiplier les péchés sans en concevoir aucune douleur. Et dès qu'il va avoir le moindre désagrément, il se décourage. Beaucoup de découragés sont de ce style. Et cette tristesse n'est pas moins grave que la colère ou la volupté. Elle apporte le même résultat. À quoi bon ? À quoi bon ? Donc, je récapitule les causes que peuvent avoir la tristesse, qui sont multiples, frustration du désir, découragement psychique, abattement, détresse, oppression, anxiété et même angoisse. Cette tristesse peut même ouvrir la porte à des pensées démoniaques et à des paroles démoniaques intérieures. Elle peut naître de la sensation d'échec, elle peut s'accompagner de méchanceté, d'amertume, de rancune, de pensées arrangeantes telles que « c'est la faute des autres ». Et quand la tristesse est reliée à la recherche de considération, de reconnaissance des honneurs, on n'a pas eu l'honneur qu'on devait avoir. Ah, mon patron ne m'a pas donné la prime que je devais avoir. Ou bien, je suis passé en deuxième rang alors que je devais être en premier rang. Je n'ai pas eu la place d'honneur qui me revenait. Là, c'est notre orgueil qui est en cause. Déception du moi. L'effondrement de tout ce qui nourrissait mon assurance. Attachement à nous-mêmes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La joie et l'espérance s'amenuisent. La tristesse peut dégager deux types de réactions. Replier sur nous-mêmes. Perdre confiance dans ceux qui nous entourent. Deuxièmement. Troisièmement, perdre même le goût de la vie. Elle peut même nous conduire jusqu'au désespoir. Et là, le démon passe et il vous dit « suicide-toi ». Et il y en a qui se suicident. Et comme elle nous coupe des autres, l'esprit de méchanceté se met en place. Et on peut même se suicider dans cette pensée de méchanceté parce qu'on ne pense pas à ceux qui vont vous ramasser. Ni au conducteur de métro qui sera traumatisé pendant des mois et des mois parce qu'il me dira « mon père, mais pourquoi donc tous les suicidés, quand ils se jettent devant mon métro, ils me regardent en sautant ? » Donc, la puissance de l'âme, qui est cette puissance irascible, est très importante pour garder la joie, la paix, pour s'abandonner au bon Dieu. Il y a une réaction qui peut avoir lieu suite à cette tristesse, c'est le désir de vengeance, qui se mélange avec de la colère. Une vengeance qui n'est pas satisfaite produira la tristesse. Tristesse et rancune vont de pair, vous voyez, ça vole en escadrille toutes ces choses-là, hein. La tristesse peut aussi venir d'une épreuve de la foi. Vous avez vu le jeune homme riche dans l'Évangile? Il repart tout triste car il est déçu. Il est prisonnier de ses résistances. Il avait de grands biens. La tristesse va saccager la prière. Elle va décentrer, bien sûr, de Dieu, et l'enténèbre et accapare les pensées. Alors, désespoir, tristesse, tout cela, il faut que je vous dise quelque chose d'important par rapport aux démons. Les démons blessent par la tristesse les serviteurs du Christ. Quand ils vous voient rempli de bonne humeur, quand vous vous livrez à la joie d'avoir pu être en communion avec votre Seigneur, faites attention, faites attention. Le démon n'a pas entre les mains d'armes plus redoutables que le désespoir. Et quand on cède à la tristesse et au désespoir, sachez, et vous faites moins de plaisir aux démons en péchant qu'en désespérant. Il vous colle le désespoir, cette rouille du cœur qui paralysera le reste et qui même par la suite vous conduira à chercher des compensations ou charnelles ou de toutes sortes. Donc, rejetez bien et voyez arriver comment cette tristesse arrive et en méprisant les choses convoitées qui vous causent cette tristesse, la volonté contrariée qui vous pose cette tristesse. Celui qui ne méprise pas toute chose matérielle ne peut s'affranchir de la tristesse. Regardez, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai dû perdre mes deux cartes bancaires mardi. Voilà. Ben voilà. Je continue. Mon téléphone n'a pas de code. Si on le trouve, on me le rapportera. J'ai simplement mis mon nom dessus avec mon mail. J'ai pas peur des autres. J'ai pas peur du monde. Les autres ne me rendent pas triste. Tous ces codes. Partout des codes. Vous vous coupez du monde. Vous vous méfiez des autres. Mettez des codes partout. Vous perdez la joie. Vous perdez la paix. Vous vivez au milieu d'agresseurs. Tout le monde est devenu un agresseur potentiel. Combien avez-vous de mots de passe? Oui. Tâchez d'avoir celui du paradis. Hein. Le bon Dieu se laissait approcher. La puissance irascible exploitée au profit de marchands commerciaux qui vous prennent votre âme en mettant en votre âme, en distillant dans votre âme. Quoi? La sécurité. Il n'y a que Dieu qui peut la donner. Si prends mon téléphone, on en rachètera un autre. Et ça vous discipline à ne pas mettre n'importe quoi dessus. Et à vous en servir comme d'un téléphone. Ça va devenir une muselière bientôt, ce téléphone. Un cerveau annexe. Voilà, je prends l'image du téléphone. Celui qui ne méprise pas toute chose matérielle, c'est qu'un téléphone. J'ai vu des gens qui perdent leur téléphone, mais je dis, c'est pas possible. Ils sont dans un état. Ils courent, ils crient. Autre chose intéressante, je ne fais pas le malin, croyez-moi. Si une personne, par exemple, croit ne pas avoir de point d'attache à quelque chose, moi je suis détaché, et que néanmoins elle ressent quelque tristesse encore dans son cœur lorsqu'elle se trouve privée de quelque chose, elle est donc dans l'illusion. Et pour m'entraîner, parfois je dis, t'as plus ça, qu'est-ce que tu dis? T'as plus ça, qu'est-ce que tu dis? T'as plus ça? Là où j'achoppe, je dis, t'as plus ta bibliothèque? Alors là, je me dis, non, ça c'est pas possible. Plus de cheveux, ça va. Plus de bibliothèque, c'est pas possible. Et ça, je n'arrive pas à m'en défaire de mes livres. Hein. Faites la liste de ce que vous ne pouvez pas vous défaire, lieu de votre tristesse. Il faut rendre tous les biens à Dieu, ainsi, en faisant ces deuils, vous retournerez la tristesse, et on la retourne par quoi? Les deuils dont je vous parle, les renoncements dont je vous parle, qui méprisent tout cela. L'acceptation de votre fragilité, de votre vulnérabilité, ben oui. Pareil, Soubirous disait, Soubirous, ça n'est que ça. La gloire, tant pis. Ensuite, et ça, c'est encore un père de l'Église qui le dit, qui échappe aux convoitises de son époque, de ce monde, devient inaccessible aux tristesses du monde. Donc attention à la rancune, puissance irascible, et attention de ne pas vous couper des autres parce qu'il contrarie votre puissance irascible. Le prochain fait partie du chemin qui mène à Dieu. Et quand on se replie sur soi, parce que les autres vous rendent triste, je vous l'ai dit, moi mon chien c'est mieux que tout, au moins il est gentil mon chien, mais les êtres humains ça vaut rien. Voici un exemple, voilà. Autre chose qui chasse la tristesse, la puissance irascible dans la tristesse, c'est la louange, la vertu de louange. Retrouvons la joie et soyez capables de montrer votre ouverture au Seigneur en ne laissant pas entrer en vous le poids de ce qui vous inquiète. Et le remède principal, c'est la prière. La prière qui vous permet... Alors, dans la prière, évitez, quand vous êtes dans la tristesse, la méditation silencieuse. Il vaut mieux prier debout, à haute voix, et en chantant, en écartant les pensées négatives. Car si vous mettez silencieusement en prière, la folle du logis, l'imagination, va se mettre à partir dans tous les sens, comme un cheval au galop, et vous n'allez pas améliorer votre tristesse. Ensuite, tâchez de la cédille. Rapidement la cédille, parce que j'ai passé trop de temps sur la tristesse. La cédille est une passion qui est proche de la tristesse. Elle se distingue de la tristesse car rien de précis ne motive cette tristesse. C'est une tristesse sans raison. Un esprit qui est troublé, une intelligence qui est paralysée, une inefficacité épouvantable, une lourdeur, dégoût, aversion, lassitude, abattement, découragement, nonchalance, somnolence, pesanteur du corps, y compris même de la religion. Voilà. Ça, le vide. Un sentiment d'insatisfaction vague et générale. Tout cela, difficulté à se fixer dans un endroit, vagabondage, errance dans la vie, un métier par-ci, un métier par-là, repli sur soi-même, recherche de distraction, inquiétude sans raison. Voilà, multiples activités, voilà, état pénible, fréquentation futile, on sort, on fait ceci, on fait cela, on essaye de fuir l'ennui. On essaie de combler ce qui est insatisfait. Voici un peu le schéma. Et cet état peut surgir inopinément dans le cadre d'une carrière professionnelle, d'un projet, ou bien à un moment donné, on parle de la crise de la quarantaine, on se remet en question. Sentiment de dégoût de soi, dégoût de l'existence, d'autrui, du travail, fatigue, voilà. Tout ce qui avait de la valeur pour nous, d'un seul coup, n'a plus de sens. Ça existe chez les moines. On appelle ça le démon de la cédille, qui s'attaque à la discipline du monastère. C'est fini. On rompt le silence. On accepte les négligences. On n'a plus trop de goût à l'office. On arrive en retard. Voilà. On va jusqu'au doute dans la foi qui fait goûter l'enfer. Bien. Les anciens, les pères de l'Église disaient que cette passion, cette assédie, c'est drôle, intensité maximale aux alentours de midi. On appelle d'ailleurs le démon de l'assédie le démon de midi, pas de minuit, de midi. Les ermites redoutaient ces crises d'assédie. C'est une mort qui enserre votre âme. Alors, cette lourdeur du cœur, cette épreuve de la foi, où on souffre sans savoir trop pourquoi, mais on souffre, eh bien, on peut s'en sortir. Et on s'en sort en vivant l'instant présent. L'instant présent. Le repentir et l'espérance. L'instant présent, parce que la sédie s'attaque aux puissances de l'âme pour pousser ou à quoi bon. Patience, persévérance, simplicité des gestes quotidiens, on avance au radar, on fait petit pas à petit pas, on accepte les choses comme elles viennent, on ne fait pas de grands projets surtout. L'instant présent qui soigne et guérit la sédie. Et une chose, on fait les choses bien. Au travail, par exemple, on s'implique, mais on fait les choses bien. Le labeur. Une crise d'acédie, allez faire un travail manuel. Sortez, allez vous promener, mais être bien ancré dans la terre. Vivez l'instant présent. La tâche à accomplir, le travail est sanctifiant, il est créateur, donc il va renouveler votre énergie pour vous remettre dans le réel. Et vous vivez chaque jour comme c'était le dernier jour. Ce soir, je meurs. Voilà une solution qu'utilisaient les ermites. Et on disait à un ancien, « Pourquoi n'es-tu jamais découragé ?» Parce que chaque jour, je m'attends à mourir. Le repentir. Le repentir est intéressant. Pourquoi ? Parce que se repentir, c'est découvrir que Dieu m'a aimé en premier, et par conséquent, j'accepte mes limites, ma vulnérabilité, peu importe. Je fais ce que je peux, autant que je peux, quand je le peux, pour ce que j'en peux. Un peu de grosso modo, j'avance. Du moins que j'avance, peu importe, rapide ou pas rapide, mais j'avance. Le psaume 51 dit « Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'hysope, je serai pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. » Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. La sédie, c'est les eaux brisées. Maintenant, je vais terminer par l'espérance en particulier. L'espérance, fais confiance. Fais confiance au Seigneur ton Dieu. Il faut surtout renoncer aux preuves d'amour. Ne cherchez pas à avoir des signes du bon Dieu, hein. Ouh là là. Il y a plein de gens qui disent à droite, à gauche, un pigeon à gauche, Dieu est avec moi, un pigeon à droite, il n'est pas avec moi. Le cierge s'allume tout seul, je suis exaucé, le cierge s'éteint, un malheur arrive. Ne cherchez pas à avoir des preuves d'amour, mais surtout par votre prière qui vous sortira de l'engourdissement. Dites surtout au bon Dieu, j'ai confiance en toi. Et soyez plutôt disponible à ce qui va arriver en disant, on s'en sortira. Avance au large, au large, au large. Maintenant, la colère. Alors là, je voudrais vous en parler rapidement. La colère est un des lieux, donc tristesse, acédie, colère. La colère, il y en a qui se mettent en colère, l'irritation passe vite, d'accord. Mais ils oublient qu'ils se sont mis en colère. Et la colère est preuve d'immaturité. La colère exprime une volonté de réaffirmation, de rehaussement, de réassurance de soi. Et d'une mauvaise connexion de l'intelligence et du cœur. L'intelligence est déconnectée, et c'est le cœur qui charrie toutes ces émotions. Et souvent, la colère entraîne la méchanceté, parce que ce qui sort du cœur contrarié, je ne vous dis pas. Et je vous disais tout à l'heure que la colère n'est légitime que lorsqu'elle est la cible, non pas du prochain, mais quand elle combat la maladie, le péché, qui est la maladie par excellence. Que la paix, que votre cœur annonce cette paix. Le ressentiment est une source de colère qui s'entretient au plus profond de vous. La rancune est une source de colère possible. La haine est une source de colère qui demeure. Hostilité, animosité, inimitié, en un mot, méchanceté, mauvaise humeur, indignation, moquerie, volonté ouverte de nuire, se réjouir du malheur de l'autre, tout cela relève tôt ou tard de la colère. Attention, la colère, ce n'est pas simplement subie, elle est aussi un engrenage. Et ce que je vous ai décrit là, c'est un engrenage qui conduira à des colères. Et la colère, elle est liée, bien sûr, à des convoitises qui finissent par l'engendrer. Elle est encore plus néfaste, la colère, lorsqu'elle est rentrée. Au lieu de s'exercer sur le prochain, elle va s'exercer sur vous-même. Comme dans le cas où vous avez accompli un acte que vous n'acceptez pas, qu'on vous a forcé à faire, et vous êtes furieux. Ça vous met dans la confusion, et vous êtes grognon, et tout le monde en prend pour son grade. Et vous allez perdre donc la douceur, et la douceur perdue, c'est la ressemblance avec Dieu. La colère, on peut la vaincre par le jugement. Ayez de la jugeote. La colère, je vous dis, est signe d'immaturité, car elle entraîne une mort profondément spirituelle, parce qu'elle cherche, la colère chasse toutes les vertus. Vous pouvez faire n'importe quoi avec la colère. C'est une sorte de folie. On dit d'ailleurs, quand vous mettez en colère, le démon entre en vous. Vous pouvez faire les pires choses, jusqu'au meurtre. Si quelqu'un est malade et qu'il a une épine dans la main ou dans le pied, je vois mal retirer l'épine en tapant dessus avec un bâton. Vous allez l'enfoncer. Je vous conseille le bistouri. Par conséquent, vos paroles, vos cris souvent sont comme des bâtons, des paroles dures, des gestes violents. Tandis que le bistouri, lui, il va enseigner l'enseignement, la correction, il va reprendre, il va exhorter. Mais le bistouri ne dit pas « frappe, frappe, frappe ». Et s'il faut frapper, il faut le faire très, très rarement. Jésus n'a fait qu'une colère, il a frappé les vendeurs du temple une seule fois. Il a passé son temps, 3 ans, à enseigner dans le temple. Ce n'est qu'à la fin. Croyez-moi, on retourne la colère par le pardon et la vertu de douceur et de patience. Et croyez-moi aussi, la colère est profondément liée à l'attrait des plaisirs. Les pères de l'Église conseillent vivement de s'attaquer en premier lieu à la gourmandise, la luxure et l'avarice. Maintenant, combattez aussi ce qu'on appelle la colère par le pardon, ça vous évitera ces haines, par la compassion qui vous rendra miséricordieuse, en vous pardonnant à vous-même vos propres chutes, en remettant vos dettes à ceux qui en ont à votre égard, en pratiquant la patience. Voici tout autant de vertus qui vous ramèneront tôt ou tard à ce qu'on appelle un amour des ennemis, à des sentiments proprement divins qui sont dignes du cœur de l'homme. Ainsi, vous serez à la ressemblance de votre Père dans les cieux et vos souffrances ne pourront pas être autre chose, mon Dieu, que ne t'ai-je pas aimé davantage et mon prochain de la même façon. Je vous remercie. Et je vous propose de chanter pour terminer, tournez les yeux vers le Seigneur. Veuillez vous lever.
Tournez les yeux vers le Seigneur. et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
Et je vous souhaite de chanter ça du matin au soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai été un peu long. Bonne soirée.